Vous écoutez, on lit pour vous.
À la recherche des couleurs perdues, un texte d'Isabelle Paradis paru dans l'édition hiver 2024 du magazine Continuité. Derrière les teintes d'un édifice ancien se cache parfois un passé visuel insoupçonné. Partir à sa découverte, c'est dévoiler tout un pan oublié de son identité. Lorsqu'on observe les bâtiments de jadis, on s'attarde a priori sur ce qui est visible. On remarque leurs matériaux constitutifs et décoratifs. Et si ces bâtisses avaient changé d'allure au cours de leur existence? Leur revêtement d'origine aurait-il pu disparaître, effacé par le passage des années? Et s'il refaisait surface, il aurait sans doute beaucoup à raconter. C'est ce voyage dans le temps que rend possible l'étude des finis architecturaux. Les traces de revêtement révèlent des aspects insoupçonnés de l'histoire d'un bâtiment. Parfois, des couleurs apparaissent là où l'on croyait que les matériaux avaient toujours été nus. Cette expertise du patrimoine bâti est relativement nouvelle. Pendant longtemps, on a accordé peu d'importance aux fragments de peinture, d'enduit et de papier peint dans les grands chantiers de restauration et on les a encore moins documentés. On ne maîtrisait pas encore les méthodes qui permettent leur examen. Changement de ton. Avec l'évolution des techniques d'examen et un accès plus facile aux analyses scientifiques, le restaurateur spécialisé en finis architecturaux est désormais bien outillé pour examiner les matériaux anciens. Les collections d'échantillons et les bases de données l'aident aussi dans sa quête, tout comme la recherche historique des savoir-faire en architecture. La documentation, au cœur du travail, contribue à sa compréhension des techniques traditionnelles de construction. Ce spécialiste étudie les détails comme les traces d'outils et la composition des revêtements en pain, pigments et liants, afin de mieux comprendre l'évolution de l'apparence d'un bâtiment au fil du temps. Son travail se base sur les sondages stratigraphiques permettant d'identifier les différentes couches de peinture superposées et l'examen scientifique des prélèvements au microscope en lumière normale, ultraviolette ou polarisée. La date d'invention connue de plusieurs pigments permet également de situer leur période d'utilisation. Lorsque le bleu outre-mer, inventé en 1830, apparaît dans une peinture, on peut affirmer que la couche est postérieure à cette date. Même chose pour le jaune de chrome, présent à partir de 1797, le jaune Turner à partir de 1881, le vert de Scheel à partir de 1775 et le blanc de titane à partir de 1919. Il est possible d'identifier les pigments de ces couleurs par une observation au microscope optique couplée à des tests microchimiques. En revanche, pour plus de précision, on recommande de procéder à des analyses au microscope électronique à balayage, à la spectrométrie de fluorescence des rayons X ou encore à la diffraction des rayons X. Des outils en images. En plus de l'étude des fragments, le restaurateur peut compter sur d'autres témoins pour remonter l'histoire. Des aquarelles du 19e siècle comme celle de James Pattison Cockburn, 1779-1847, mettent en lumière des détails de construction des bâtiments du Vieux-Québec. Certaines œuvres de ce formidable observateur dépeignent la ville vers 1830 sous plusieurs angles. Les édifices qu'on y voit ont une allure différente de celle d'aujourd'hui. Les maisons y sont presque toutes blanches ou affichent des teintes pâles d'ocre, de gris ou de rose. Les photographies historiques en noir et blanc n'apportent pas d'informations sur les couleurs. En revanche, plus il existe de photographies anciennes datées d'un même bâtiment, plus on peut reconstituer l'évolution de son apparence. L'observation des contrastes de gris sur les photographies permet de dresser une hypothèse de l'état d'un bâtiment selon les périodes. Cette méthode s'appuie sur les résultats des sondages stratigraphiques, les examens au microscope et les recherches historiques. Vous écoutez « À la recherche des couleurs perdues ». Un texte d'Isabelle Paradis paru dans l'édition hiver 2024 du magazine Continuité. Des outils en mots. Les anciens récits de voyage servent également de repères. De passage à Québec en 1749, l'explorateur et botaniste suédois Père Calme, mentionne que les murs extérieurs des maisons sont blanchis à la chaux. Lors de son séjour au Canada en 1850, l'écrivain Henry David Thoreau décrit ainsi les demeures de la côte de Beaupré. Elles étaient en pierre, plus ou moins maintenues par du mortier, mais toujours bien chaulées. Présent à Québec en 1831, le Britannique Thomas Fowler observe le château Saint-Louis, édifice en pierre de 3 étages. Les murs sont peints en jaune et le toit est couvert de fer blanc, ce qui donne à l'ensemble une apparence légère et élégante de quelque direction qu'on le regarde. Ces descriptions correspondent à la tradition française en matière de construction. Une maçonnerie en moellon recouverte d'un enduit de chaux protecteur, mais aussi décoratif. L'enduit participe à la composition des façades d'un bâtiment au même titre que la pierre de taille qui encadre ses ouvertures. Effet de mode. D'ailleurs, les courants, les modes et les traditions artisanales sont d'autres éléments qui ouvrent une petite fenêtre sur l'apparence passée des bâtiments. Les édifices en maçonnerie du Vieux-Québec en sont un bel exemple. Bien qu'aujourd'hui, la plupart nous apparaissent en pierre grise, plusieurs marchés de construction du régime français décrivent l'application d'un enduit sur les murs extérieurs. À cette époque, à la suite de nombreux incendies, les ordonnances des intendants recommandent les constructions en pierre, le plus souvent en moellon, avec une finition à la chaux. La disponibilité des matériaux à une période donnée fait aussi partie des informations utiles. La région de Québec étant riche en gisements de pierres calcaires, de nombreuses carrières y sont exploitées, dès 1650 pour certaines. La pierre noire du Cap, un calcaire argileux, sert comme moellon, mais aussi à fabriquer la chaux. Les badigeons et les mortiers sont des produits locaux faits à partir du calcaire de la région. Ces matériaux ont longtemps été les plus accessibles pour enduire les bâtiments. Quant à la peinture à l'huile de lin importée d'Europe, et elle est réservée aux plus fortunés avant la période industrielle. Par ailleurs, la mise en marché de la peinture en pot au 19e siècle rend plus accessible cette pratique qui se poursuit durant tout le 20e siècle. Après les avoir chaulés depuis le début de la colonie, on recouvre certains bâtiments en pierre de peinture à l'huile parfois colorée avec des pigments bon marché à base d'ocre jaune, rouge ou autre. Toutes les vies définies. De nos jours, certains bâtiments du Vieux-Québec conservent leur enduit de chaux, mais des traces de couleurs subsistent sur des ouvrages de maçonnerie dont les enduits ont été retirés. C'est le cas de l'église Notre-Dame-des-Victoires. Ses parements de pierre sont parsemés de fragments d'enduits et de peintures ocre rouge. Un prélèvement observé au microscope montre une accumulation d'une dizaine de couches de peinture ocre rouge, ocre brune, ocre jaune et d'enduit beige. Même constat pour la cathédrale Holy Trinity, la maison Chevalier et d'autres bâtisses du secteur. Ainsi, l'examen technique des traces des finis architecturaux apporte une foule d'informations sur l'apparence des bâtiments d'hier à aujourd'hui. Il faut le combiner à l'étude des documents historiques, des images et des écrits anciens, comme à la connaissance des activités de construction et des traditions. L'allure d'un édifice ne se limite pas à une seule version figée dans le temps, mais à plusieurs états successifs, chacun représentatif de son époque. De quoi raconter une histoire haute en couleurs. C'était « À la recherche des couleurs perdues », un texte d'Isabelle Paradis paru dans l'édition hiver 2024 du magazine Continuité.
Pas sorti du bois, un texte de Gabriel Anquetil paru en hiver 2024 dans le magazine Continuité. La forêt de la seigneurie de Lotbinière semble tout droit sortie d'un conte de fées. Le sol épais du sentier absorbe le bruit de nos pas et les arbres au tronc large qui nous entourent irradient de sagesse. Partout où le regard se pose, une plante, un animal ou un insecte attire notre attention. L'ambiance feutrée inspire un sentiment de révérence. on croirait presque qu'un lutin se cache derrière une des roches couvertes de mousse. Depuis une vingtaine d'années, des militants se battent pour que cette forêt obtienne un statut de protection. Leurs efforts viennent d'ailleurs de porter fruit. En août dernier, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, a ajouté une superficie de 18 km² au cœur de la forêt à la liste des réserves de biodiversité. On a de bonnes raisons de vouloir protéger ce coin de nature au sud-ouest de la capitale. En plus d'être un refuge pour la biodiversité locale, la section de la vallée du Chêne, qui longe la rivière du même nom, n'a jamais été touchée par l'industrie forestière. Ce type de forêt précoloniale est rarissime au sud du fleuve Saint-Laurent. C'est aussi un témoin historique important puisqu'il a appartenu à Henri-Gustave Joly de Lotbinière, ancien premier ministre du Québec et précurseur du mouvement pour la conservation des boisés. L'annonce de la protection de ce petit coin magique tombe à point. Le gouvernement du Québec s'est engagé dans le cadre de la COP15 qui se tenait à Montréal en décembre 2022 à protéger 30 % de ses terres d'ici 2030. La hache dans l'exploitation sauvage. Au début des années 2000, au Québec, un coup de tonnerre retentit dans le monde forestier. La diffusion du désormais célèbre documentaire « L'erreur boréale » co-réalisé par l'auteur-compositeur-interprète Richard Desjardins, met en évidence le triste sort que nous réservons à nos riches forêts. En réponse, le gouvernement constitue la commission Coulombe, à qui il confie le mandat de réviser la gestion sylvicole et de proposer des améliorations. De cette commission émerge un nouveau statut de protection, les écosystèmes forestiers exceptionnels ou EFE. Cette désignation permet de garder à l'abri les écosystèmes inusités à l'échelle de la province, forêts rares, et les forêts intouchées depuis longtemps par l'humain ou par des phénomènes naturels, comme des feux, forêts anciennes. Elle préserve en outre les espaces servant de refuge à des espèces florales ou fauniques menacées, forêts-refuge. À ce jour, 256 EFE ont vu le jour. Ils totalisent 595,6 km², ce qui représente moins de 0,1% de la superficie forestière du Québec. Une fois le statut inventé, c'est comme si le ministère avait eu des remords et décidé de ne pas en classer beaucoup, soupire Martin Paulette, qui siège comme administrateur au Conseil régional de l'environnement de Chaudière-Appalaches. Ancien chargé de projet pour l'organisme, il milite depuis le début des années 2000 pour la préservation de la forêt de Lotbinière. Arbres intouchés, arbres résilients. Pourtant, il y a de bonnes raisons de vouloir protéger les écosystèmes forestiers exceptionnels. Les forêts anciennes présentent des caractéristiques uniques qui se développent avec le temps, résume Stéphane Derry, chargé de projet en conservation au ministère des Ressources naturelles et des forêts. On y trouve des chicots, arbres morts demeurés debout, des débris ligneux, troncs couchés en décomposition, de gros arbres de grande taille. Tout ça permet d'offrir des habitats particuliers. En moyenne, les EFE font une cinquantaine d'hectares. Certaines espèces d'ailleurs ne vivent que dans ces vieilles futaies. Autre avantage de ces recoins intouchés, ils permettent de répondre à certaines questions concernant les changements climatiques, dont on commence à peine à voir les effets. Dans ces forêts, on a des arbres qui ont 300 ans, rappelle Martin Paulette. Ils ont vu du froid, du chaud, ils ont connu les pires sécheresses. Je leur ferai confiance pour s'adapter à ce qui s'en vient. Pourrons-nous nous inspirer de leur expérience pour aider le reste des étendues boisées à se préparer à l'avenir? Patrimoine du peuple Huron-Wendat. À une centaine de kilomètres à vol d'oiseau au nord de Québec se trouve le massif de forêt boréale du Nyon-Wendat-Sio. Longtemps préservé de l'industrie forestière, en raison de son inaccessibilité et des épidémies d'insectes récurrentes, l'endroit est un espace patrimonial pour les membres du peuple Huron-Wendat. C'est un lieu où plusieurs familles allaient, et vont encore, pour pratiquer des activités coutumières, rapporte Stéphanie B. Nadeau, analyste en anthropologie pour le Conseil de la Nation Huron-Wendat. Son patrimoine archéologique est riche. Des collègues qui sont allés sur place ont trouvé des sentiers de portage encore intacts, en usage depuis des centaines d'années. Elle pointe aussi vers la toponymie locale. Le lac à Moïse serait ainsi dénommé en l'honneur de deux Wendat, prénommés Moïse, qui fréquentaient ce plan d'eau. S'ajoute à tout cela la découverte d'une peinture rupestre de 20 mètres de longueur par 3 mètres de hauteur, exécutée à l'ocre rouge il y a plusieurs centaines d'années. En 2018, la nation obtient un moratoire sur des coupes forestières prévues après avoir pris connaissance d'un plan pour exploiter ce territoire intouché. Un projet d'air protégé voit alors le jour. Ya Nyanhon Hunde. Ce nom signifie « là où l'on cueille des plantes médicinales ». Un clin d'œil supplémentaire au rôle patrimonial que joue ce lieu pour les Hurons-Wendat. La zone couvrirait plus de 850 km². Une idée qui prend racine. La prochaine étape, consulter les membres de la nation sur la manière dont ce territoire pourrait être utilisé. La vision n'est pas encore définie, résume Clara Morissette Boileau, qui coordonne le projet. Mais une chose évidente, c'est qu'on voudra travailler en collaboration avec les autres usagers du territoire. Ce ne sera pas juste pour les Wendat. Comment fait-on pour occuper une forêt, y camper, y chasser, voire y récolter du bois, sans pour autant menacer sa biodiversité et sa valeur patrimoniale? Pour celle qui est aussi biologiste, il serait vain de vouloir déposer une cloche de verre sur ce territoire pour le protéger. Pour nous, l'humain fait partie du territoire, explique-t-elle. Dans le projet de Ya Nyan Hon Nde, la moitié du territoire serait gardée en conditions naturelles, un statut qui demeure à définir. L'autre moitié pourrait être utilisée de manière durable, ce qui inclut la possibilité d'y couper du bois, en autant que cette pratique respecte certains objectifs de conservation. Pour le moment, aucune initiative de ce type n'a vu le jour au Québec. Il y a longtemps que les Wendat se positionnent comme des gardiens de la forêt, souligne Clara Morissette Boileau. On n'a pas besoin de la validation du gouvernement pour le savoir. Mais ce serait quand même une belle reconnaissance. Que le mouvement de sauvegarde soit mené par des autochtones ou des allochtones, une chose est certaine, contrairement à un élément de patrimoine qu'on peut conserver dans une salle de musée à température contrôlée, une forêt est un organisme vivant. Elle peut brûler, on l'a bien vu l'été dernier, ou être envahie d'insectes ravageurs. Une trop grande présence humaine, comme des infrastructures ou des visiteurs peu consciencieux, peut venir bouleverser des écosystèmes fragiles. Ce qui confirme l'importance d'identifier les parcelles qui demeurent afin de les protéger le mieux possible. C'était « Pas sorti du bois », un texte de Gabriel Anctil, paru en hiver 2024 dans le magazine Continuité.
Les Gaspésiens et les Madelinots vulnérables à la crise climatique. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 8 novembre 2024 dans Le Devoir. Vieillissante et moins nantie, la population de la Gaspésie et des îles de la Madeleine risque de subir de plein fouet les impacts de la crise climatique, prévient la Direction de santé publique de la région. Et les moyens pour se préparer à ce qui s'en vient sont toujours insuffisants. L'érosion côtière, la submersion, les inondations, les tempêtes, la chaleur, les précipitations plus intenses et la présence accrue de vecteurs de maladies auront des impacts bien réels sur la santé des citoyens et des communautés, constate la Direction régionale de santé publique de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine dans un rapport publié mercredi et intitulé « Les vulnérabilités climatiques projetées pour 2050 ». Les conséquences potentielles sont d'ailleurs nombreuses, selon Marianne Papillon, médecin conseil en santé publique. Aggravation de maladies chroniques, insécurité alimentaire et hydrique, détresse psychologique et troubles mentaux, augmentation des maladies infectieuses, fragilisation du tissu social et de l'accès aux soins et aux services, etc. Les changements climatiques auront un impact disproportionné sur les personnes déjà en situation de vulnérabilité. Le vieillissement accéléré de la population et le haut niveau de pauvreté dans la région viendront par exemple exacerber les conséquences sur la population de la Gaspésie et des îles, souligne Yves Bonnier-Vigier, directeur régional de santé publique Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Les personnes plus âgées et moins nanties sont en effet plus exposées aux conséquences d'une crise climatique qui continuera de s'aggraver dans les prochaines décennies en raison du manque d'ambition mondiale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Érosion. L'érosion côtière, la submersion et les tempêtes peuvent entraîner des coupures de route ou forcer le déménagement des résidents, ce qui peut provoquer notamment de la détresse, des tensions sociales, des pertes de revenus, un stress post-traumatique ou encore une rupture d'accès à des soins. L'érosion côtière frappe de plein fouet les régions maritimes du Québec. En Gaspésie, par exemple, le phénomène menace directement des communautés et des tronçons entiers de la route 132, lien routier vital pour la région. Et aux îles de la Madeleine, où l'érosion est déjà bien présente, 70% des zones côtières sont aussi à risque de submersion en raison de la montée des eaux, de l'effet des tempêtes et de la disparition des couverts de glace en hiver. La hausse des températures, qui favorisera très probablement les événements climatiques extrêmes, devrait aussi multiplier par 6 le nombre de journées très chaudes, soit à plus de 30 degrés centigrades, et ce d'ici 2050. Le réchauffement permettra aussi l'arrivée de vecteurs de maladies comme la tique responsable de la maladie de Lyme, en plus d'accentuer potentiellement le risque de feux de forêt. L'ensemble des impacts attendus fait dire aux experts en santé publique que le réchauffement augmentera la pression sur un système de santé déjà frappé par le manque de main-d'œuvre et de ressources. Le docteur Bonnier-Vigier insiste donc sur le besoin de développer des mesures d'adaptation qui vont répondre aux besoins de la région. Ressources. Pour le moment, cependant, les moyens nécessaires pour s'adapter aux impacts de la crise du climat ne sont pas au rendez-vous. La plupart des gens disent que les ressources qui sont actuellement disponibles ne semblent pas suffisantes, dit-il. Nous avons tendance à attendre à la dernière minute, comme après une tempête ou lorsqu'une plage s'érode. Mais on voit qu'il y a une conscience qui s'éveille dans la population et chez nos décideurs indiquant qu'il faut prévoir et mettre plus de ressources sur les changements climatiques, ajoute le docteur Bonnier-Vigier. Cette préoccupation va obliger nos décideurs à mettre plus de moyens pour résoudre les problèmes. Nous n'aurons pas le choix. Une vaste étude universitaire publiée en 2021 concluait par ailleurs que la crise climatique avait déjà des répercussions sur la santé mentale des Québécois et que celle-ci risque de s'aggraver au cours des prochaines années. Dans le cadre de l'étude, 43% des répondants qui ont subi des pertes financières imputables à la crise climatique disaient aussi souffrir de symptômes de dépression majeure, une proportion 2,5 fois plus élevée que dans la population en général. Les problèmes occasionnés par les changements climatiques, chaleur, smog, tiques, herbes à poux, etc., semblent aussi jouer un rôle important dans le développement de troubles de santé mentale. Quelque 28% des personnes ayant vécu dans un passé récent des problèmes de santé causés par ces bouleversements ont fait état de symptômes modérés ou sévères de dépression majeure. Une proportion 60% plus élevée que ce que l'on observe dans la population générale. L'Organisation mondiale de la santé considère que le réchauffement climatique et la variabilité du climat qui en découle sont les principaux risques pour nos sociétés à l'échelle du globe, et en particulier pour la santé des populations. Record de chaleur en 2023. L'année 2023 est toujours sur la bonne voie pour devenir la plus chaude de l'histoire de l'humanité, selon des données publiées mercredi par l'Observatoire européen Copernicus. Depuis janvier, la température moyenne est la plus chaude jamais mesurée sur les 10 premiers mois de l'année, 1,43 degrés Celsius au-dessus du climat des années 1850-1900, selon l'Observatoire européen. Octobre 2023 est 1,7 degrés Celsius plus chaud que la moyenne d'un mois d'octobre sur la période 1850-1900, soit avant l'effet des émissions de gaz à effet de serre imputables à l'activité humaine. Plus que jamais, 2023 s'approche donc sur une année entière de la limite emblématique plus 1,5 degrés Celsius à ne pas dépasser, selon les termes de l'accord de Paris. L'Organisation météorologique mondiale a estimé au printemps que cette barre serait franchie pour la première fois sur 12 mois au cours des 5 prochaines années. Il faudra toutefois mesurer le 1,5 degré Celsius en moyenne sur plusieurs années pour considérer le seuil atteint du point de vue climatique. Le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, GIEC, prévoit qu'il le sera avec 50% de chance dès les années 2030-2035. Compte tenu du rythme des émissions de gaz à effet de serre, essentiellement en raison de notre dépendance aux énergies fossiles. C'était Les Gaspésiens et les Madelinots vulnérables à la crise climatique, un texte d'Alexandre Shields paru le 8 novembre 2024 dans Le Devoir.